mort.
Midi 13h,
débat première.
Bertrand Hen.
Faut-il s'inquiéter de la baisse du niveau d'orthographe ?
Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, quand le complément d'objet suit le participe, il reste invariable, j'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi ? Pourquoi avant, mais pas après ?
Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi ? Pourquoi un X ? Pourquoi avant et pas après ?
Pourquoi pas de T ?
Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi.
Voilà, on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Pourquoi l'orthographe ? Eh bien, on va essayer dans cette émission de le faire. Extrait de la pièce Convivialité de Arnaud Hout et Jérôme Piron, qui ont donc choisi d'évoquer sur scène, ce thème de l'orthographe et de la faute d'orthographe en particulier. Pour avoir des infos, puisque cette pièce, elle tourne un petit peu partout, je vous invite à aller visiter le site www.laconvivialité.com. Alors, si on fait cette émission en partenariat avec nos confrères du VIF qui consacrent un article à ce sujet dans leur dernière édition, c'est parce que certains enseignants en sont certains. Il y a une baisse du niveau de l'orthographe et pour certains, le phénomène devient interpellant, puisque le niveau d'orthographe ne témoignerait pas seulement d'un manque de rigueur, mais aussi d'un manque de compréhension, voire même de structuration de la pensée. Les fautes seraient quelque part l'indicateur d'un niveau de médiocrité généralisé. Pour d'autres, il faut relativiser tout ça, dédramatiser l'actuelle maîtrise de l'orthographe. Il conviendrait surtout d'adapter l'école à notre époque marquée par le rapport, notamment au numérique et aux écrans. Pour en débattre, Michel Francard, qui est professeur de linguistique à l'UCL, chroniqueur de langue au Journal de Soir. Bonjour.
Bonjour.
Michel Francard, Christiane Buisseret est avec nous aussi. Elle est présidente de l'Association belge des professeurs de français. Bonjour, Christiane Buisseret.
Oui, bonjour.
Et Philippe Berkenbaum, qui est journaliste au VIF et qui signe donc ce dossier. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
On commence par vous. Le cœur de votre article part d'un constat qui est assez largement partagé par les professeurs qui témoignent ou vous interrogez dans votre dossier. La maîtrise de l'orthographe pose problème. Est-ce que c'est vraiment neuf, selon vous ?
Alors, le problème en soi n'est pas neuf, mais il y a des études qui montrent qu'il y a une dégradation. Donc, d'une part, il y a ce qui a été un peu à l'origine du dossier pour nous, c'est le fait qu'effectivement, des professeurs du supérieur, plus que de l'enseignement secondaire ou primaire, a fortiori, ont un petit peu tiré la sonnette d'alarme, parce que eux constatent, ce ne sont pas des professeurs de français, ce sont des professeurs de n'importe quoi, mais ils constatent dans les travaux qui leur sont remis par les étudiants qu'il y a effectivement une dégradation de l'usage de la langue. Ce n'est pas seulement l'orthographe, c'est la grammaire, c'est la structuration de l'écrit, etc. Donc, la sonnette d'alarme a été tirée par ces professeurs, mais par ailleurs, il y a effectivement des études qui sont faites, notamment en France, on utilise la même langue, qui montrent qu'effectivement, année après année, quand on fait des dictées, les études portent sur l'orthographe elle-même, il y a effectivement de plus en plus de fautes en moyenne qui sont commises.
Donc c'est objectivable. On peut dire qu'il y a une baisse de la maîtrise du français et de l'orthographe en particulier.
Apparemment, oui.
D'accord. Alors, et l'étude dont vous parlez, je vais un petit peu l'expliquer parce que dans votre article, vous y faites référence. C'est vrai qu'on la trouve assez facilement aussi sur le net. On en a beaucoup parlé, ça remonte il y a 2 ans. Une même dictée qui a été proposée à des élèves de CM2, c'est donc, je crois, plus ou moins la 5e primaire en France, l'équivalent chez nous, pardon, de la 5e primaire. Et cette dictée a été proposée en 87, en 2007, en 2015. Alors, voici le résultat. En 2015, les élèves font en moyenne 17,8 erreurs contre 14,3 en 2007 et 10,6 en 1987. Et l'essentiel des difficultés relève de la non-application des règles grammaticales. Voilà, en gros, je résume hein, les résultats de ces études qui avaient beaucoup interpellé côté français et qui interpellent aussi chez nous. Christiane Bouisseret, vous êtes présidente de l'Association belge des professeurs de français. Comment vous réagissez, vous, à ce ressenti et puis ces études qui pointent une baisse du niveau de maîtrise de la langue et de l'orthographe?
Oui, certainement. Je voudrais peut-être d'abord saluer mes collègues, instituteurs, professeurs de français, qui sont souvent mis en question dans cette situation. Oui. La deuxième chose que je voudrais dire d'emblée, c'est que j'ai vu le titre du dossier du Vive l'Express, oui. Menace au pluriel, un terme fort, et votre proposition de débat, faut-il s'inquiéter de la baisse du niveau d'orthographe ? Alors, d'emblée, j'ai envie de dire, l'orthographe, la langue n'est pas l'orthographe et inversement.
D'accord.
Donc, la langue française comporte différentes entrées, l'écrit, l'oral, mais surtout, quand on parle de maîtrise de la langue française, il s'agirait de bien préciser que c'est de la syntaxe qu'il s'agit, lorsque que les étudiants ne comprennent pas. Donc il y a une question de sens qui est liée à la maîtrise de la langue française. Alors, nous aveugler en disant « mais non, c'est de la déploration généralisée », elle est là. Il y a des gens qui déplorent et il y a des constats.
On va en entendre les éditeurs qui nous ont écrit pour déplorer.
Oui, je crois. Mais on pourrait peut-être s'intéresser aussi à des causes extérieures. Toutes ne sont pas forcément négatives. Il y a un recul de l'illettrisme, il y a une mixité sociale, il y a l'accueil des réfugiés, il y a aussi les progrès techniques. Tout ça peut être pris en compte. Maintenant, nous sommes là aussi association pour aider les professeurs. J'aurai l'occasion peut-être de le
D'accord.
préciser.
D'accord. Donc, il eût fallu titrer la maîtrise de la langue française plutôt
Exactement.
Que l'orthographe en particulier. Bon, on prend pour nous. Michel Francard, vous êtes linguiste à l'UCL, chroniqueur de langue au journal Le Soir. Quel regard vous portez-vous sur cette baisse de maîtrise de la langue ?
Eh bien, d'abord, je suis d'accord sur la reformulation qui me paraît vraiment très importante. Ouais. Pour les raisons qu'on a dites, hein, l'orthographe, c'est pas la langue, on est bien d'accord là-dessus. Et pour insister sur le fait que, d'après ce que moi je vois à la fois dans mon enseignement, mais aussi dans les courriers des lecteurs que je reçois régulièrement, le véritable problème, c'est surtout un problème à la fois lexical et un problème de type argumentatif, pour le dire très rapidement. Donc, lexical d'abord, c'est le problème du choix du mot adéquat, avec le sens qu'il faut lui donner dans le contexte. Et tout ça, c'est pas pour des fleurs de rhétorique, hein, c'est pas pour faire joli, c'est parce que les mots nous permettent de dire le monde. Mmh. Et vous avez été sensible, certainement comme moi, à toute une série d'interventions récemment sur l'emploi des mots. Hein, cet otage du Bataclan qui dit à quelqu'un en face de lui, parce que lors d'une grève, il y avait une prise d'otage des usagers, il dit « mais non ». Écoutez, moi j'ai été un otage au Bataclan, n'employez pas ces mots à tort et à travers. Donc toute une série de formules comme ça, les rafles, on a évoqué à propos des rafles. Donc c'est important d'éviter des abus de langage, et c'est pour moi vraiment là une question de maîtrise fondamentale de la langue.
Pour revenir à notre titre sur l'orthographe, oui, qui était peut-être... D'accord, vous avez bien le droit de le critiquer. Il n'y a pas de baisse du niveau de l'orthographe, alors pour rester sur l'orthographe pure...
Sur le plan factuel que vous avez évoqué tout à l'heure, avec une dictée telle
avec
que celle
cette étude
que vous...
française, hein.
Il n'y a pas de contestation possible. D'accord. Mais nous savons tous très bien, d'abord, que l'exercice de la dictée est un exercice très particulier qui ne témoigne pas de la maîtrise de la langue. Il faut être très clair là-dessus. C'est la maîtrise de quelques règles en contexte. C'est ça, le maximum.
Donc, on pourrait avoir considéré qu'il y a une baisse du niveau d'orthographe, qui est notamment pointée ici à travers cette étude, sans qu'il y ait nécessairement une mauvaise compréhension des choses, que la maîtrise de la langue ne soit pas atteinte nécessairement.
C'est en tout cas... Le lien n'est pas nécessaire.
D'accord.
On le constate souvent, ce que je vois parfois avec les étudiants que j'avais ou les étudiantes que j'avais en face de moi, c'est que certaines personnes cumulaient les déficits, si vous voulez, déficits orthographiques, déficits lexicaux, déficits argumentatifs, etc. Je constatais d'ailleurs, c'est quand même intéressant de le dire aussi, que parmi ces étudiants et étudiantes, certains étaient remarquablement au fait à la fois de la grammaire, de la syntaxe et de l'orthographe, hein, et d'autres étaient malheureusement largués. Donc là aussi, il faut s'interroger sur les conditions dans lesquelles ça se passe. Mais en tout cas, ne faisons pas de l'orthographe quelque chose de prédictif, si vous voulez.
D'accord, une sorte de baromètre à lui seul de la maîtrise de la langue. Mais est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter, Philippe Winkerbaum, Philippe Berkebaum, journaliste, est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter, selon vous ?
Alors ça, c'est pas tellement une question qu'il faut poser aux journalistes. Les journalistes.
Mais pourquoi vous avez traité votre dossier ? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter ?
Ce qu'on a mis en évidence, c'est effectivement que ceux finalement qui font partie des formateurs, et on parle effectivement, Monsieur Francard en est un des professeurs du supérieur, eux s'en inquiètent. Donc eux, ce qu'ils disent effectivement, c'est pas tellement ce qui stigmatise ou ce qu'ils mettent en évidence, c'est pas tellement, et ça a été dit ici, le problème spécifique de l'orthographe, c'est le problème de l'expression, et en particulier de l'expression écrite. Et donc eux disent, il y a effectivement on constate de façon générale, et évidemment, il faut probablement pas généraliser, mais on l'entend, qu'il y a effectivement, ça traduit manifestement une difficulté à structurer sa pensée.
D'accord.
Et donc là, il faut, à mon avis, s'en inquiéter. Oui.
D'accord. Même question sur l'inquiétude. Vous êtes inquiète, vous ou pas, Christiane Buisson, on vient de faire un premier tour de table, je pense qu'on comprend plus ou moins où sont les enjeux. On a cité cette étude issue de France, avec ses fameuses dictées à travers les années, depuis 1987. Est-ce que vous vous en inquiétez ?
Oui, enfin, je le répète, je ne vais pas nier des symptômes évidents. Mais de nouveau, redonner sa juste place à cette orthographe et surtout peut-être considérer que c'est un outil. Mmh. Alors, si c'est un outil, il faut apprendre à l'utiliser. On ne met pas dans les mains immédiatement de n'importe qui ou de celui qui apprend un outil trop sophistiqué. Donc, débarrassons peut-être l'apprentissage de la langue et de l'orthographe de toutes les fioritures qui l'encombrent. Mmh. Nous avons tous en tête des exemples. Mmh. Moi, je regarde dans le dossier du Vif l'Express sans trop le déflorer, mais maintenant, il est dans les mains... Il est dans les mains des lecteurs. Mmh. Par exemple, l'histoire de l'ascenseur. Donc, L-A-censeur. Ouais. Là, nous sommes dans...
Ah oui, l'ascenseur.
Exactement.
Ouais.
Donc, mais comme l'ont très bien décrit les auteurs de l'ouvrage La faute de l'orthographe, je reviendrai aussi à la notion de faute.
Ah, on ne dit pas erreur d'orthographe, on dit faute.
Or, savez-vous que les professeurs de mathématiques et de sciences disent « on fait des erreurs, là tu as fait une erreur ». Et nous parlerions de faute. Donc là, peut-être aussi. Voilà.
Michel Francard, ça veut dire que l'orthographe, et là je reviens au terme utilisé dans le titre, c'est une norme sociale, c'est aussi une manière de juger, évidemment, derrière. C'est pour ça que c'est sensible. Hein.
Bien sûr. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut s'en inquiéter aussi, parce que ce serait fou de faire croire aux gens, notamment aux jeunes, qu'ils vont pouvoir, avec n'importe quelle orthographe, s'en sentir dans la société. Il y a une sanction, évidemment, dans la société.
Et il y a des gens qui souffrent de cette dysorthographie, ou d'une orthographe en tout cas malheureuse, et qui souffrent du jugement, alors qu'ils ne sont évidemment pas... au niveau mental, en quoi que ce soit, amoindri,
bien sûr.
C'est le cas de le dire.
Mais outre la souffrance que vous évoquez, mais là, ce sont plutôt des cas de difficultés qu'il faut surmonter à un moment donné. Il y a tout simplement les prétextes à quels l'orthographe sert, notamment dans l'embauche, etc. Qu'un plombier doit faire une dictée pour être engagé, c'est quand même intéressant comme fonctionnement de notre société aujourd'hui. Donc pas d'angélisme là-dessus, ça c'est certain. Donc pour moi, un des enjeux, ce serait d'ailleurs de faire évoluer le regard que la société porte sur ce type de normes-là, bien entendu. Mmh. Et donner peut-être plus de place alors à des enjeux qui me semblent plus fondamentaux.
D'accord, mais ça veut dire quoi ? On abandonne la rigueur sur les grammaires, la syntaxe et l'orthographe. On se dit, bon, avec cette société du tout à l'écran, on va le dire comme ça, parce que ça fait pas de faute, où l'écriture manuscrite est moins présente, on peut un petit peu laisser tomber toute cette rigueur ?
Non, on ne peut pas laisser tomber la rigueur, mais je crois que, par exemple, pour le français, très concrètement, il y a un travail à faire sur la forme de l'orthographe actuelle.
Ouais, il faut la simplifier, quoi. Mais ça fait
un travail qui a été fait, si je peux me permettre, et qui n'est jamais entré réellement en vigueur.
Je crois que ça date de 1990, la dernière réforme.
La grande réphare, de l'Académie française.
Mais une phare avec un F, on ne l'utilise toujours pas. Christiane Buisseret.
Oui. Alors, à propos de cette fameuse réforme qui a été validée également par les Français, c'est passé au journal officiel en France.
Je pense qu'on nous a consulté, Belges et Suisses, quand on a fait cette réforme.
Évidemment, il y a eu des experts belges qui ont largement participé à cela, dont notamment le professeur Gauss. Et je pense que les gens s'accrochent à des détails. on n'est peut-être pas allé suffisamment loin. Mmh. On entend les gens dire ça c'est une réformette, et si c'est une réformette, je ne vais pas l'appliquer. Bon. Le décret qui a été passé chez nous laissait aussi une sorte de flou qui gêne les enseignants et qui le gêne encore certains. Les deux orthographes vont coexister. Oui. Et ça, les gens n'aiment pas. Oui. Ils préfèrent que ce soit clairement précisé. Oui. Pourtant, comment écrivons-nous le mot-clé ? Dans le dictionnaire, nous trouvons soit et accent aigu, ou bien encore avec F. Mmh. Alors, l'idée de la coexistence, ça ne va pas trop. Mmh. J'ai envie de dire maintenant que, le constat étant celui-là, ne serait-ce pas l'occasion de fédérer les professeurs et d'aller peut-être plus loin dans une construction d'une réforme plus solide que certains pays ne refusent pas. Je pense à l'Allemagne, je pense...
Ouais, mais dès qu'on touche aux Français, ça a l'air toujours beaucoup plus sensible. On l'a vu sur l'écriture inclusive, c'est un débat émotionnel
c'est
énorme.
Et affectif. Ouais, affectif. Parce que comme si ça avait été sucé avec le sein maternel. Langue maternelle, attention.
Voilà. Exactement. Allez, on continue à débattre de ça et on évoquera notamment vos interventions sur la page Facebook de l'RTBF Info. Et je vous en donne déjà une, celle de Sandrine. Mon fils a 15 ans et en primaire, aucune dictée interdite. Mais évidemment que le sens est lié à la grammaire. C'est un nivellement par le bas en communauté française. Et la fin est gratinée. On a ce que l'on mérite, encore un signe de fin de civilisation. Que peut-on faire? Eh oui, ben on répondra à Sandrine. A tout de suite.
Midi 13h.
Débat première.
Les éclaireurs
sur la première.
Bonjour, c'est Fabienne Vandemerge. Nous avons rendez-vous chaque samedi dès 15h avec les éclaireurs, les chercheurs qui nous ouvrent la voie, éclairent notre avenir. Ils nous feront partager leurs recherches, leurs découvertes, leurs passions.
15h, 16h le samedi, les éclaireurs sur la première.
Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio.
Des dizaines de conseillers et une équipe d'architectes à votre service. Rien n'est impossible.
Cuisine Créfel, mon rêve, ma cuisine.
Bagel, bœuf mariné, hot dog à la new-yorkaise, cupcakes. Du 5 au 18 mars, Picard met l'Amérique dans vos assiettes. Découvrez 23 produits emblématiques en édition limitée directement inspirés des USA. Et régalez-vous comme si vous y étiez. Picard, chaque jour un goût nouveau. Toutes nos adresses sur picard.be.
La première et la une présente l'expo Les Singes. Rencontrez nos plus proches cousins. Découvrez combien on se ressemble et à quel point on est différents. L'expo Les Singes au Muséum des Sciences Naturelles à Bruxelles jusqu'au 26 août. Avec le journal Le Soir.
La première présente...
Dernier coup de ciseau. Alors, c'est une comédie policière interactive, très drôle, évidemment. Tiens, au fait, déjà 9 millions de spectateurs dans le monde. À partir du 28 février au TTO. Enfin, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu.
www.ttotheatre.be 02 510 0510 avec Le Soir.
La première et la 3 présente Thème et Variation. La nouvelle création de Gilles Roman. Suivi par l'œuvre mythique de Maurice Béjart, Le Boléro. Les 18, 19 et 20 mai à Forêt Nationale. Info et tickets, musical.be.
Pour ces châssis, chacun choisit. Mais avec ID Châssis, c'est easy, nos soucis, clients ravis, devis gratuits. ID Châssis, c'est bien choisi, plaisir garanti et les meilleurs prix. Bref, ID Châssis, aucun ennui.
ID Châssis.
ID Châssis, chaussée de Tirlemont à Gembloux. Portes ouvertes ce week-end, profitez de nos conditions salon.
C'est une femme, une bijoutière, qui a été retrouvée morte à côté de sa voiture.
T'es soupçonné, David ?
Une part d'ombre, avec Fabrizio Rongione et Natacha Régnier.
Il vous utilise pour vous faire croire qu'il n'a pas pu commettre le crime.
Un thriller captivant sur un homme confronté aux soupçons de ses proches. Une part d'ombre de Samuel Tillman, une coproduction RTBF actuellement au cinéma.
Vous ne me croyez pas, en fait.
La première présente BIP 2018, la Biennale de l'image possible. Plus de 60 artistes belges et internationaux d'aujourd'hui. La création visuelle contemporaine et la photographie vibrent au présent. Dans l'exposition Fluo Noir à la Beauvry et 7 autres lieux officiels à Liège jusqu'au 1er avril. BIP-Liège.org avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la province et la ville de Liège.
Débat première.
Bertrand Rennes.
Faut-il s'inquiéter de la baisse du niveau d'orthographe? Ou plutôt, c'est un des acquis de la première partie de cette émission, de la maîtrise du français. On répond aux questions des auditeurs maintenant. Et on évoque le cas de Sandrine. Sandrine nous écrit, elle dit « Mon fils a 15 ans, il est en primaire, il n'a pas de dictée, elles sont interdites. Pourtant, évidemment que le sens est lié à la grammaire. C'est un nivellement par le bas. Depuis combien de temps, en communauté française, s'interroge-t-elle, on a ce que l'on mérite encore un signe de la fin de civilisation. Que peut-on faire? Plus rien, nous dit Sandrine. En plus, elle est pessimiste. Et c'est vrai que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices ont été dans ce sens-là. Il y a une baisse, ils en sont certains, et c'est le signe d'une forme de décadence ou de fin de civilisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Francard? Je rappelle que vous êtes linguiste à l'UCL.
Oui, ce n'est certainement pas une décadence à mes yeux, mais c'est certainement la fin aussi d'un système. Et ce système-là, c'est notre rapport à l'écrit. Donc au fond, il n'y a pas encore si longtemps que ça, l'école nous a vraiment familiarisés avec un type d'écrit qui était très corseté, avec des règles claires, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet écrit qu'on met en évidence et qui était réservé à des élites, il est beaucoup plus largement partagé par toute une série de scripteurs et de scriptruses. Mmh. Et donc, cet écrit-là procède avec des codes différents. Et pour moi, c'est un véritable enjeu. C'est comment se réapproprier un rapport à l'écrit qui ne travaille plus sur une forme d'élitisme, mais qui donne justement l'occasion à un maximum d'utilisateurs et d'utilisatrices, bien entendu, de s'approprier cet instrument-là. Mmh. Et si on n'y arrive pas, alors je suis d'accord qu'à ce moment-là, le niveau va baisser. Mmh. Mais je vois aussi des jeunes qui, remarquablement en tout cas, passent d'un code à l'autre, sont tout à fait capables d'envoyer à leur enseignant un texte impeccablement écrit parce qu'ils sentent qu'il vaut mieux le faire, et puis qui se lâchent sur les réseaux sociaux.
Et qui font moins.